On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Chers auditeurs, il est 15h30, vous écoutez Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, votre nouveau rendez-vous débat, actu, politique et sociétal. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque semaine et à mes côtés, une équipe de choc, pardon. David, 15 ans de militantisme dans les partis de droite avec des responsabilités diverses, juriste de formation et aujourd'hui consultant en affaires publiques. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Baya.
Ensuite, j'aperçois Alexandre de Galzin, que vous êtes habitué de la maison, journaliste à Radio à Courtoisie, animateur de la matinale Ligne droite du mardi au jeudi, sosie officiel de Lucien de Rubempré, écrivain et poète sur les bords.
C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Bonjour Baya.
Bonjour Alexandre. Elliot, vous êtes rédacteur pour Tout Beau Tout Neuf et passionné par les médias, la politique et tout ce qui raconte notre époque. Il vous embarquera pour décrypter les tendances, les contenus et les signaux faibles culturels et politiques. Bonjour Elliot.
Bonjour Baya.
Et pour terminer, Alex, vous avez fait du droit et des sciences politiques. Vous avez ensuite décidé de vous lancer dans les médias. Vous avez fait un master en journalisme. À présent, vous intervenez dans les rédactions de contenu d'émissions TV. Bonjour Alexandre.
Bonjour Baya et bonjour à tout le reste de l'équipe.
Et d'ailleurs, vous aviez une histoire à nous raconter par rapport à notre rencontre, il me semble.
Ah oui, alors c'est bien de le dire pour la première, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Baya et moi, on a été dans la même classe. Alors ça a pas duré longtemps, ça a duré que quelques semaines.
Elle s'est fait virer, qu'est-ce qui s'est
alors,
passé?
Alors il y a eu énormément de péripéties. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans la même école, mais il y avait plusieurs masters. On a démarré l'année scolaire dans le même master il y a 3 ans maintenant. Et puis du coup, elle a décidé de changer de master pour faire quelque chose d'autre au sein de la même école. Donc on a été dans la même classe les 2-3 premiers mois de cette année de master et on a continué à se côtoyer à l'école, mais on n'était plus dans la même classe.
Quel honneur.
Mais d'ailleurs, Alexandre, il me semble qu'on a fait la même école, mais vous aussi, vous n'êtes pas resté longtemps.
Tout à fait, mais oui, effectivement, moi, c'était pas tellement
c'est
mon truc.
C'est la même école que la nôtre,
c'était, c'était une école de journalisme, mais le journalisme, c'est pas tellement mon truc, donc finalement...
Ben, et c'est donc pour ça que vous êtes devenu journaliste.
Exactement, voilà.
Bah aujourd'hui, on commence très fort. On va parler de l'audiovisuel public avec un invité de marque, Éric Morillo, auteur du livre Les Intouchables de l'audiovisuel public, en collaboration avec Michel Goldstein, du désastre de l'Eurovision ou encore de la polémique de la phrase sur le SMIC de Louis Sarkozy. Tout d'abord, vous l'avez certainement vu passer dans les médias, le Festival de Cannes a commencé il y a une semaine. Alors j'avais une question à vous poser. Avec quelle célébrité ou politique vous aimeriez apparaître sur le tapis rouge et pourquoi? Je vous laisse commencer, David.
Moi, j'ai choisi Monica Bellucci. Monica Bellucci, c'est... Il y a une classe, il y a aussi... Ben, c'est ça, en fait. Elle arrive à allier la classe et un côté populaire de Mission Cléopâtre. C'est... Il n'y a rien à dire. Monica Bellucci, c'est... On n'a pas les mots. Voilà, Monica Bellucci, il n'y a rien à critiquer. Il n'y a rien à dire, Monica Bellucci. Donc, on dit oui. Et ce qu'on peut dire que... Il y a Vinny.
Oui. Non,
mais, j'allais rebondir là-dessus tout de suite. Parce que vous n'êtes pas foulé. Vous avez choisi quelqu'un de la liste. C'était trop facile, ça, comme réponse.
Oui, mais tu voulais choisir... Alors, en ce moment, c'est compliqué, là. Festival
Attendez,
de Cannes.
Attendez, il y avait quand même Aurore Berger.
Voilà. C'est toujours pas de ma liste personnellement.
Allez, donc, on va pas attaquer le physique tout de suite. On va prendre notre temps avant d'y aller.
Alex.
Moi, je ne veux pas choisir quelqu'un de la liste. Déjà, est-ce que j'ai le droit de choisir plusieurs personnes? Est-ce que je peux venir avec une petite équipe?
Un harem.
Soit c'est mon dream, soit c'est le vôtre. Donc est-ce que je peux choisir
pas l'anglicisme. Il y a un euro dans le petit cochon.
Je mettrai un euro dans le pot. Est-ce que je peux choisir au moins deux personnes?
Oui.
Deux personnes. Et ces deux hommes, moi j'aimerais y aller avec Jonathan Cohen et Pierre Niney. Parce que
pourquoi
je me dis que si j'allais là-bas, je voudrais passer un bon moment. J'ai envie de rigoler, d'être détendu. Et puis je pense que c'est vraiment le duo parfait pour passer un bon moment au Festival de Cannes. Ils sont drôles, ils connaissent beaucoup de monde. Je sens que c'est des gens qui ne sont pas prises de tête et qu'on passerait un très très bon moment et un très très drôle moment surtout.
Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais
un moment très drôle.
Il faudrait ajouter un nouveau pot avec les mauvaises tournures de phrases.
Dans le mauvais sens.
Je peux rajouter quelque chose sur ce qu'il a choisi, et Pierre Niney et Jean Dujardin. J'aimerais.
Jonathan Cohen. Pour un trio, j'aurais rajouté Jean Dujardin.
Non, mais alors, parce qu'ils incarnent quelque chose. Pierre Niney et Jean Dujardin, moi, ce que j'aime dans ce que tu as choisi, ils incarnent vraiment quelque chose, tu vois.
C'est ça.
Les autres. Tu vois.
Moi, c'est comme je disais, j'ai envie de passer un bon moment et je pense que c'est deux personnes avec qui je passerai un super moment. Ouais, donc, c'est mon choix.
Alexandre ?
Ben non, mais alors déjà, moi, j'ai pas été informé du Festival de Cannes par les médias. J'ai été informé par le compte Instagram de Baya Carla Stendhal. Alors, on sait pas trop comment, enfin je sais pas, elle se perdait sans doute, elle est en train de se balader dans la ville et puis elle a réussi à trouver une porte, elle est rentrée, enfin pardon, Baya, j'ai pas envie de me reprendre mon défaut professionnel de journaliste, mais quelque part qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, enfin c'est
Bah justement, ça prouve qu'aujourd'hui le festival de Cannes ce n'est pas uniquement que pour les personnes qui travaillent dans le cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, c'était assez amusant
vraiment,
de
tout
voir
tout le monde peut rentrer, il y a
non,
aucun...
pas tout le monde, attends, attendez, non, quand même pas. Non, c'était assez compliqué de pouvoir y rentrer. Moi, c'était un rêve de petite fille. J'ai réussi à avoir des places, mais c'est assez amusant parce qu'il y avait beaucoup de soirées, notamment avec des réalisateurs, et on pouvait observer qu'il y avait une sorte de véhémence aussi, mais que je peux comprendre totalement. Et je comprends aussi, évidemment, toutes les personnes sur les réseaux qui comprennent pas pourquoi moi ou d'autres personnes s'incrustent, entre guillemets, au Festival de Cannes. C'est totalement légitime. Mais bon, chacun vit comme il le peut.
Bah, je vais vous dire, moi, s'il y avait une personne avec qui j'aurais dû aller au Festival de Cannes, ça aurait été avec vous.
Est-ce qu'on peut faire un pot pour le faillotage de la patronne, s'il vous plaît?
Il va être rempli au bout de 4 minutes.
Au bout de 4 minutes par vous, parce que vous êtes le seul à faillotager.
Oui, 4 minutes par mois. Non, mais sinon, autre personnalité, moi, mais malheureusement, c'est pas possible non plus, c'est Goldshifteh Farahani. Évidemment, mais qui est malheureusement prise par un certain Emmanuel M. Donc, en réalité, malheureusement, pas très possible. Enfin, compliqué, quoi, finalement. Mais je pense que ça se tente. Je pense que j'ai mes chances. Après, voilà, s'il faut passer une bonne soirée, faut que je m'arrange. Je sais pas, il faut trouver un bon restaurant après. Enfin, voilà, faut que j'arrange mon coup, quoi. Mais sinon, le cinéma est très secondaire, hein, vous l'aurez remarqué. Moi, c'est vraiment quelque chose qui. Ça passe à la trappe très rapidement.
Bah, j'ai vu un film très intéressant qui s'appelle Hope. Ouais. Donc, un film sud-coréen. Logique, ça ne pouvait pas venir du Nord. Ça aurait été compliqué.
Waouh.
Mais non, c'était assez amusant. Il y avait beaucoup de professionnels du cinéma, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et je vais vous faire une confession, je ne suis pas restée jusqu'à la fin du film.
Eh ben bravo. Ouais. Wow. C'est plus long qu'un TikTok.
Le film terminait à 20h30 et nous avions une soirée juste après. Donc, voilà.
Ouais, priorities.
Priorités.
Est-ce que vous étiez la seule à partir?
Comment?
Est-ce que vous étiez la seule à partir?
Ah, c'était un peu la honte. J'avoue que, en plus, j'ai été très bien éduquée par mes parents et je vous avoue que marcher sur les pieds des dames qui étaient assises à côté de moi.
Ah oui, en plus vous marchez sur les pieds. Oui, c'est
ça,
même pas la sortie discrète.
Ouais.
Non, c'est vraiment, je sors, hein, coucou.
Ah non, mais c'était très compliqué.
Alors,
les places étaient.
Note à Baya en projection de film, vous vous asseyez au dernier rang.
Toujours, tout au fond à gauche, absolument.
Si ça avait été le film concernant l'affaire Samuel Paty, je serais restée par contre.
Ah.
Et je sens qu'on va en parler.
On va en parler en fin d'émission. Et Elliot.
Moi, je suis sur la même ligne que Alex. Moi, je vais avec Artus pour beaucoup.
Okay. En jupe ou pas?
En jupe.
En jupe. Pour ceux qui auront la ref.
Bah oui.
Je vous vois très bien dans une jupe, Elliot.
Non.
Je pense qu'il y a un dos.
Ça va commencer avec les phrases polémiques. Et en parlant de polémiques, on va passer à Louis Sarkozy. Nouveau bad buzz politique ce week-end. Louis Sarkozy, fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, s'est retrouvé au cœur d'une énorme polémique après une phrase prononcée lors d'une interview.
Le SMIC français dans sa forme actuelle est devenu un véritable crime social.
Un crime social, vous exagérez.
Mais écoutez, 5 millions de personnes aux minima sociaux, 8% de chômage, 1,5 million de jeunes ni en emploi, ni en formation. Et chaque année, on augmente le SMIC sous les applaudissements. On a fermé la porte du marché du travail et on s'étonne que personne n'y entre.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, mais en tout cas, dès la diffusion de l'extrait, les réactions ont été extrêmement violentes sur X, TikTok ou encore Instagram. Beaucoup ont dénoncé une phrase déconnectée de la réalité des Français qui vivent justement avec le SMIC. Pour vous, est-ce que c'est une phrase choquante? Quel est votre avis sur l'idée de Louis Sarkozy de ne plus avoir de SMIC? Alex?
Moi, honnêtement, je comprends pas trop le bad buzz. Donc, je voulais juste rappeler que la discussion, elle a eu lieu dans le cadre de la revalorisation du SMIC qui arrive au 1er juin prochain. Donc, le SMIC va être augmenté de 2,4%. C'est une hausse d'environ 35 euros par mois. Et en fait, je comprends là où il a voulu aller sur le fait que chaque année, on augmente petit à petit le SMIC. Et en fait, c'est un plafond de verre que beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser. Et je dis pas que la proposition de supprimer le SMIC est une vision extraordinaire ou très novatrice qui pourrait fonctionner. Mais en tout cas, je vois là où il a voulu aller et je pense qu'on lui tombe un peu dessus pour les mauvaises raisons. C'est une proposition politique. On adhère ou on n'adhère pas. Ça reste une proposition politique à laquelle on peut émettre, sur laquelle on peut émettre un avis sans pour autant faire tomber la personnalité dans un bad buzz qui, selon moi, n'a pas lieu d'être.
David. Donc t'es pour ou contre? Je veux dire, c'est.
Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait voir dans un schéma un peu plus global. Mais en tout cas, sur le principe, je trouve que le bad buzz n'est pas fondé parce que c'est juste une proposition politique qui peut être débattue, discutée, on peut être d'accord, pas d'accord, et amener des contre-arguments ou des contre-propositions.
Oui, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, les Français sont quand même très inquiets, notamment sur leurs dépenses, sur leurs finances, donc ça peut aussi choquer, et il y en a beaucoup qui sont encore attachés au SMIC.
Mais moi, je pense qu'en vrai, le vrai problème, c'est pas tant soit peu de supprimer ou de conserver le SMIC, c'est qu'à chaque fois, il augmente tous les ans, mais de quasiment rien. C'est quelque chose que les Français,
je pense, ne voient pas. Sur l'inflation ?
Oui, mais c'est ça, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait changer.
Non, est-ce mais que... pas vraiment.
En réalité, 2,5%, c'est à peu près ça, c'est oui, l'inflation,
oui,
justement, c'est
sur le SMIC. Pas tous en même temps.
Allez, Alexandre.
Non, mais en l'occurrence, moi, je trouve que...
Je sais que vous appréciez particulièrement Louis Sarkozy.
Ouais, je ne savais pas qu'un SMIC pouvait avoir un tel coût.
Mais
je bosse ça toutes les semaines, vous en faites pas. Effectivement, en vrai, le vrai problème et la raison pour laquelle il y a eu ce bad buzz, c'est que Louis Sarkozy fait quelque chose de particulièrement marquant depuis un an, c'est que il va sur une chaîne de télévision, là je sais plus, c'était RMC,
c'était chez Apolline Matin.
Et effectivement, son seul objectif, c'est comme quand il a proposé de supprimer les limites de vitesse pour les circulations. C'est-à-dire qu'en réalité, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est faire du bruit. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est faire des propositions qui sont actuellement pas dans le débat.
Et pourquoi juste histoire
de créer un débat. Et en réalité, la seule chose qui sert, c'est même... En fait, dans le fond, je pense qu'il s'en fiche un petit peu du SMIC ou du coût du SMIC. Je pense que la seule chose, c'est qu'il veut faire du bruit autour de lui, que là il a eu justement tout ce bruit qui est arrivé, toutes ces réactions sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en réalité il s'y attendait parfaitement, qu'il est très content, qu'il est absolument pas décontenancé. À mon avis, il y a évidemment, on peut ouvrir le débat de fond sur l'existence ou non du SMIC, sur le montant du SMIC, ça c'est tout à fait possible. En revanche, je pense que la raison pour laquelle on est tombé dessus, c'est vraiment que il fait ça tous les deux mois, tous les trois mois, il arrive avec une nouvelle proposition. Ça a été légaliser la cocaïne, ça a été justement supprimer les limites de vitesse, ça a été, je sais plus, ils s'en est pris au rond-point, même à un moment.
Sachant que le SMIC concerne aujourd'hui 3 millions de Français, je pense que le terme de crime social, c'est peut-être aussi ce qui a choqué les gens.
Oui, mais il l'a fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, son seul objectif, c'est de faire parler de lui. Là, il est élu municipal à Menton. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai tout le respect de la terre pour Menton. Hein, et d'ailleurs, enfin voilà, mais il n'a pas été élu. D'ailleurs, il s'est fait sortir par l'opposition. À laquelle il s'était rallié, il est même plus dans le groupe. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est exister au plan national. Il y arrive très bien avec ce genre d'histoire.
Elliot, vous vouliez réagir ?
Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une bonne mesure. Alors, portée par lui, je sais pas si c'est utile, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne mesure. Parce qu'aujourd'hui, augmenter le SMIC sur l'inflation, je trouve pas ça utile. Ça aide pas les Français réellement. Tout augmente. C'est pas indexé sur la vraie vie. Par exemple, quand il y a eu les problèmes avec le détroit d'Ormuz, ça n'a pas été augmenté. On est là à chercher des solutions à droite à gauche. Le SMIC...
Bah, l'inflation, vrai, c'est le niveau de vie global.
Bah ouais, mais je suis désolé, le SMIC aujourd'hui, il plafonne une entrée dans le travail. Il plafonne aussi les augmentations derrière, parce que si tu augmentes le SMIC, comment tu fais quand tu es à la limite au-dessus en net pour être augmenté sans avoir pour augmenter tes employés sans avoir la déduction fiscale pour ton employeur et tout ça. Moi, je trouve pas ça bête. Je trouve qu'on est il y a plein de pays qui l'ont pas forcément, qui utilisent un taux horaire minimum, qui serait peut-être plus intéressant, et de travailler autant d'heures qu'on veut. S'arranger avec son patron, c'est peut-être plus intéressant qu'avoir un plafond minimum, de dire bah 35 heures c'est tant, si j'ai pas envie de faire 35 heures et que mon patron veut me payer toutes mes heures, bah on peut faire autre chose et avoir un taux qui est légèrement au-dessus et plus intéressant.
En tout cas, là où moi je rejoins Alexandre, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois que Louis Sarkozy prend la parole pour faire des propositions politiques, c'est souvent des propositions qui sont vues comme démagos et qui font du bruit.
Je suis pas en désaccord avec ça. Il fait jamais dans la nuance, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il fasse des propositions, très bien, mais encore une fois, l'objectif, c'est pas vraiment installer un débat, c'est simplement de faire parler de lui. Quoi.
Après, à sa décharge, et je veux pas faire de faux débats ou lui prêter de mauvaises intentions, mais je pense aussi que c'est difficile d'exister quand on a un nom si fort il fait des propositions, il est obligé de taper fort dans la fourmilière pour justement s'élever dans le débat.
David, et ensuite on va passer au prochain sujet.
Moi, je suis pas d'accord avec Elliot et je suis d'accord avec Alex et Alexandre, parce que toi, t'as dit ça fait partie d'un
schéma global sur les salaires qu'il faudrait revoir.
Entièrement d'accord avec toi. Ça va avec McDo qui fait des menus
à 5 euros
spécial anti-inflation. ça va avec les repas à 1 euro qu'on fait
pour le Crous. Ouais,
pour ouais. Le Crous. Ça va avec le débat sur l'ouverture, fermeture des boulangers et des fleuristes le 1er mai. En fait, c'est tout ça qui a remettre à plat. Mais bon, voilà, c'était une sortie pour, dans tout ça. Maintenant, ce que tu dis qui est très juste, c'est quel est l'intérêt en fait de Louis Sarkozy. Enfin, il a non, perdu.
Le but ouais. de Louis Sarkozy, c'est aussi de se mettre en avant, je pense. Oui. Il utilise des phrases choc, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Tous les politiques le font. Ils sont très bien conseillés par des
communes. Dans son rôle, il fait des propositions.
Non, mais oui, mais la majorité des politiques sont très bien conseillés. Et je pense que oui, la petite phrase aujourd'hui marche mieux qu'une explication longue. Et d'ailleurs, l'explication que vous avez donnée, Elliot, la majorité des Français ne le comprennent pas comme ça. Il y a une sorte de compréhension, un peu de discours anti-pauvres aussi. C'est ce que les gens ont compris, notamment sur Twitter. Vous en pensez quoi ?
Non, je suis d'accord, mais en fait, je tilte sur un truc, c'est le problème, c'est que ça soit Louis Sarkozy. Moi, je suis pas d'accord avec vous.
C'est un premier problème.
C'est un des problèmes, peut-être pour vous, peut-être moi aussi.
Mais c'est le problème de l'entrée du bad buzz, en fait.
Je suis d'accord, mais je suis désolé. Il est peut-être pas excellent, ni politique, ni en écrivain, ni en tout. Mais excusez-moi, mercredi, je vois Sandrine Rousseau qui dit « On va arrêter d'appeler les entrecôtes des entrecôtes, on va appeler ça des cadavres. » Je suis désolé. Elle est politique, elle est là depuis longtemps. Mais je suis désolé. Mais
ça Sandrine, c'est Louis Sarkozy, on pourrait dire que c'est le Sandrine Rousseau de droite, quoi, quelque part.
Oui, mais enfin,
c'est pas forcément admirable. Et après, sur ce qui est de la question du SMIC, en réalité, le problème, c'est que de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que balancer une proposition comme ça, dénuée de tout contexte, et là je rejoins tout à fait Alex, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a plein d'autres sujets économiques, le sujet principal étant la différence entre le brut et le net, on le sait. D'un autre côté, il y a évidemment la question, par exemple, du niveau d'imposition générale, de prélèvement obligatoire, etc., qui est un grand débat. On sait que notamment, il y a la question du poids des retraites, pour reprendre l'expression des retraites géantes des boomers qui rentrent toujours là-dedans. D'une certaine façon, en réalité, il y a tout un schéma global à penser, et arriver sur un plateau de télé en disant il faut faire ça, en fait, en réalité, si demain on supprimait le SMIC en France et qu'on changeait si on supprimait le fric en France, le SMIC en France, pardon.
Alors,
ça vient dans mon projet anticapitaliste.
Ça a déjà été fait.
Non, mais simplement pour finir, si on supprime le SMIC en France et qu'on change absolument rien au reste, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça se met dans un paradigme global. Et en réalité, je reviens sur ce que je disais, mais si Louis Sarkozy avait un vrai projet et avait vraiment envie de lancer un débat, il proposerait, j'en sais rien, un programme. Il proposerait une idée économique globale, il proposerait un nouveau système. En réalité, c'est pas ce qu'il fait, il fait juste du bruit.
Et là où je vous rejoins, c'est que c'est une proposition politique. Elle est destinée à qui?
Oui.
Déjà, à qui était destinée? Qui va
prendre cette mesure? On va passer au prochain sujet, sur la Ligue des Champions. Doit-on s'attendre à de nouveaux débordements? À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, les autorités redoutent déjà d'importants débordements dans la capitale, car les précédentes soirées européennes du PSG ont laissé de très mauvais souvenirs aux forces de l'ordre. Après la qualification du PSG face au Bayern Munich, plusieurs scènes de violence ont éclaté à Paris. Et je vais vous poser une question, est-ce que les célébrations du PSG deviennent impossibles à contrôler? David, vous avez l'air très en colère.
Oui, j'ai écouté Laurent Nunez le lendemain. Il passait donc chez CNews Europe 1 et dit « je condamne ». Je condamne fermement. Et donc,
non mais condamner, faire des choses, c'est deux choses différentes.
Ce terme, je ne peux plus m'entendre.
C'est exactement ça. Je n'en peux plus. Et donc, elle lui dit, ah mais vous savez, il y a eu des comparutions immédiates, etc.
Et combien?
Oui, voilà.
Combien ça change rien.
Donc en fait, mais non, mais les syndicats le disent. Les syndicats le disent. On a ordre de ne pas bouger. Voilà. Mais quand il s'agit d'autres manifestations, là, par contre, on y va. C'est insupportable. Et en fait, voilà, on s'est habitué.
Non mais moi je veux vous dire, moi je pense que il y a un souci aussi avec le sujet du football, parce que c'est quand même une passion populaire, et je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui veulent pas se mouiller et qui ne veulent pas en parler parce que ça toucherait aussi à leur électorat.
Alors déjà, moi, avant de répondre à votre question, doit-on craindre des débordements, je voudrais juste pousser un petit coup de gueule parce que je suis très remonté aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de combien d'heures j'ai passé dans la file d'attente de la billetterie du Paris Saint-Germain pour avoir des places pour assister à la finale au stade, et je n'en ai pas.
Billetterie virtuelle sur le site.
Sur le site du Paris Saint-Germain.
Ah, ça se passe comment? Alors expliquez-moi, parce que moi j'ai jamais commandé. Je l'avoue humblement.
Ravi de vous instruire.
Mais
et
oui,
de
évidemment,
votre
mais on
éducation,
est là pour ça.
Alexandre.
C'est avant tout une émission d'éducation.
Exactement. alors oui, en fait, il y a eu plusieurs vagues, parce qu'il y a plusieurs types d'abonnés au Paris Saint-Germain. Il y a les abonnés qui sont donc abonnés au stade, qui ont des places dans le stade à l'année. Il y a les abonnés du coup au newsletter du PSG.
On va
site.
Condamner les du coup aussi, il faudrait un troisième pôle.
Ok, on en
est du coup. On va plus avoir place sur la table, ça va être terrible.
Et c'est le quatrième pot parce qu'il y a le pot du Fayot, c'est le numéro 3. Je le rappelle. Et donc, en fait, il y avait plusieurs vagues pour chaque type d'abonné, avec une file d'attente pour accéder à la billetterie qui était énormissime. Moi, j'y suis allé, donc c'était mercredi, la vente des billets pour la phase à laquelle je pouvais prétendre. Et on était plus de 300 000 dans la file d'attente. Plus de 300 000. Et j'ai passé ma journée entière.
Combien de billets disponibles?
48 000. Le stade a une capacité de 48 000. Ouais. Et sachant que moi, j'étais dans la dernière vague, donc j'étais dans la vague où il ne restait plus que 10 000 places en vente. Donc j'ai passé énormément de temps pour rien. Donc je suis déjà remonté pour ça. Maintenant, pour recentrer un petit peu
donc
le
c'est
débat.
C'est un peu un appel si un de nos auditeurs a des places pour acheter.
Si un auditeur, écrivez en DM sur la page de Radio Courtoisie, je répondrai volontiers. Mais pour revenir sur le débat, en fait, moi, ce qui me fait surtout peur sur cette journée du 30 mai, c'est qu'il n'y a pas que la finale du Paris Saint-Germain.
Absolument.
Ce jour-là. Il y a quatre gros événements. Oui. Donc, il y a le concert de Damso à la Défense Arena, pour ceux qui connaissent un chanteur très connu. Il y a le concert d'Aya Nakamura au Stade de France. Il y a la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes.
Aussi Roland-Garros.
Et, j'allais le rappeler, on est dans un contexte de Roland-Garros. Donc, dans
un peu
Paris,
plus dans le style d'Alexandre.
Dans...
Excusez-moi, c'est, enfin, je suis vraiment désolé.
Style, d'ailleurs, un peu en couleur Roland-Garros aujourd'hui.
Mais absolument, c'était fait exprès.
Bah, ouais, je dénonce tout. Et du coup, moi, voilà, ce qui me fait surtout peur, c'est de savoir qu'il y aura quatre énormes événements en même temps.
Qui font appel au même public, globalement. Qui,
exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors,
je pense que le plus... Roland-Garros,
non,
je suis pas sûr.
Non, pardon, sauf
voilà,
Roland-Garros.
Roland-Garros, et même, et même la finale au Parc
la
des Princes.
La scène Saint-Denis, c'est rué à Roland-Garros. Cette émeute autour de Roland-Garros. Alors, pour l'anecdote, d'ailleurs, on habite à 200 mètres du
Parc des Princes.
Parc des Princes, tout à fait.
Et Roland-Garros,
et Roland-Garros
c'est
pas loin non plus.
C'est ça,
je me
vous savez quoi, on sera sur le terrain et on va voir un petit peu quel côté ça chauffe le plus. Très bien.
C'est ça, mais voilà, moi, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est de savoir qu'il va y avoir quatre événements énormes avec, on ne va pas se mentir, des populations très jeunes, des populations qui vont profiter justement de ces événements qui seront un petit peu partout dissimulés dans Paris. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je sais que l'année dernière...
pas dissimulés parce qu'ils ne sont pas très dissimulés, je pense.
Merci de me corriger. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, il y avait eu 5400 policiers et gendarmes qui avaient encadré la finale du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre cette année pour encadrer tous ces événements, mais en fait... Je trouve que la question ne se pose même pas, évidemment, qu'il faut craindre des débordements.
Moi
c'est
aussi,
sûr.
Moi aussi, j'ai un troisième coup de gueule. Ça fait.
Tout le monde est très énervé.
En fait, ces jeunes-là continuent parce que de un, c'est des mineurs et qui ne se font pas disputer.
Pas toujours.
Oui, mais souvent, ce sont des mineurs. Ils ne se font pas disputer par leurs parents. Et les parents n'ont absolument aucune condamnation. Et les autres, qui sont majeurs, n'ont pas de condamnation. Donc, en fait, le souci, ce n'est pas d'ajouter des forces de l'ordre et qu'ils se fassent casser la tête, casser la gueule, pour parler vulgairement. Le problème, c'est aussi la prévention, je pense. David, vous vouliez
je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu es très inquiet de comment on va...
Je suis très inquiet.
Mais je sais comment on va faire, moi. On va faire comme on a fait pour les JO, on va faire appel à la police du monde entier.
Ok, mais c'est vrai que ça avait très très bien marché.
Eh oui, mais souviens-toi, les gens avaient dit, mais il faudrait que ce soit plus souvent comme ça.
Attendez, les JO, ça n'intéresse pas le même public.
C'est
aussi,
ce que j'allais dire, ça m'étonnerait que la police de Bulgarie ou du Qatar
débarque. Dire que la demi-finale de lancer le javelot, je sais pas si elle a autant dérangé que ça.
Et pourquoi pas?
S'ils sont volontaires, je pense qu'on les accueille avec plaisir, mais je pense pas qu'ils ont envie de.
Non, mais vous vous rendez compte de la honte de devoir appeler des forces de l'ordre étrangères? Pour pouvoir gérer la sécurité de notre pays, c'est quand même scandaleux.
Déjà, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de supporters anglais, ce qui est déjà notre problème.
C'est vraiment
très bon.
Et là, je voulais réagir.
Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on a refusé cette fan zone, qu'on aurait pu retirer au Parc des Princes, qui est collé à Roland-Garros, qui fait des sessions de nuit.
Puisqu'on en a pas parlé, juste si vous pouvez illustrer votre propos, la fan zone a été refusée
par le ministre de l'Intérieur parce que.
Mais à tort ou à raison, Elliot?
Pour moi, à tort. Je suis désolé.
Elle devait être où la fan zone d'ailleurs? Pardon, désolé, hein, je coupe tout le temps. Mais...
Non mais il y a l'invalide qui est disponible. On peut aller là-bas, mettre une fan zone là-bas, mettre un grand dispositif, encadrer les gens, éviter qu'il y ait Roland Garros qui est collé. Au Parc des Princes.
Ils voulaient faire ça aux Invalides?
Je sais pas, mais c'est là où ils font tout le temps leur fan zone. C'est
ou autre cas.
Pauvre Napoléon.
Aussi à place de la Concorde.
Trocadéro.
Pauvre Napoléon.
Oui, c'est ça, exactement.
Il y a un moment, il faudrait arrêter de, à chaque fois, localiser les événements au même endroit et après s'attendre à ce qu'il n'y en ait aucun des deux qui déborde sur l'autre et qu'il n'y ait aucun débordement. Voilà, c'est tout.
Oui, enfin après, dans tous les cas, je sais pas si... Enfin, en réalité, la plupart des gens ne vont pas soit dans les fan zones, soit dans, si. Dans le stade. Non, en fait,
mais
là, en réalité...
Si.
Mais non, mais en réalité, la plupart des gens, ils regardent ça chez eux, ils regardent ça au bar. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent. Et d'ailleurs, même d'ailleurs, ce qu'on voyait à la dernière finale de la Ligue des Champions, c'est qu'en réalité, les gens venaient carrément prendre le métro RER venant d'autres départements frontaliers à Paris. Voilà.
Moi, je l'ai vécu.
Et en fait, les gens venaient à Paris, justement, pour pseudo faire la fête et en réalité casser la moitié du coin. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que enfin la fan zone, sans doute que ça peut permettre d'encadrer, de contrôler et de réunir au même endroit, ça je suis assez d'accord, mais dans le fond après évidemment qu'il y aura des débordements. En réalité, on sait très bien d'où vient le problème, tout le monde sait, comme dirait l'autre. Donc d'une certaine façon, ce qui se passe, au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que à moins de mettre un gigantesque dispositif policier, on peut s'attendre à la même chose. Et ça, on en vient à espérer que le PSG perde presque.
Donc, pas du tout. On va s'arrêter sur ce propos. Désolidarise de ce qu'il vient de dire.
Chers auditeurs, il est 16h. Vous écoutez toujours Radio Courtoisie. On ne va pas se mentir, votre nouveau rendez-vous débat actu, politique et sociétal. Et nous allons passer à un sujet un peu plus léger, l'Eurovision. C'était samedi soir.
Plus léger.
La 70e édition de l'Eurovision en Autriche depuis. Alors attention pour la prononciation. Le Wiener Stadthal.
Surtout, je me dis heureusement que vous avez dit attention à la prononciation avant de mal le prononcer. Qu'est-ce que ça aurait été si vous l'aviez pas dit.
En tout cas, globalement, c'est à Vienne. Voilà, cette soirée a été présentée par Stéphane Bern et Camille Cerf pour France 2. Et cette année, Monroe, âgée de 17 ans, franco-américaine, a représenté la France avec sa chanson Regarde. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts pour la Bulgarie. Est-ce que vous l'avez écouté ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors, parce que là, je crois qu'on va retirer les casques. Là, vous, c'est vraiment compliqué.
En fait, quand elle dit pas Bangaranga, ça va, hein, c'est...
Mais alors, mais non, mais en vrai,
le problème, c'est que c'est le refrain. Donc.
Mais alors, je ne savais pas que Jules était bulgare.
Comme tous les ans, depuis 1977, la France a encore perdu. Est-ce que tout le monde connaît le fonctionnement de l'Eurovision?
Oui, bah c'est y a un vote qui est établi par le jury et puis il y a un vote qui est établi par le public, tout simplement, qui se fait par vote téléphonique, c'est ça?
Elliot, vous êtes le pro de l'Eurovision, vous vouliez absolument nous en parler.
On a l'expérimentable, pardon. Le pro, calmons-nous. Oui, en effet. Alors, 25 nations qui s'affrontent, entre guillemets, bien sûr, en termes de... alors, 35, mais il y en a 25 qui passent au final sur scène pour chanter, danser, faire une sorte de composition. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la proposition de la Grèce, qui était assez particulière. Mais bon, on en reparlera plus tard. Donc,
dis-nous qui est.
Qui était en fait en ours, orange. Un peu.
Ah, c'était visuellement que c'était parti.
Visuellement,
okay,
c'était costaud. Mais bon, fallait regarder. Je sais pas si vous l'avez vu, Alexandre.
Non, effectivement, j'ai pas eu cette chance. Je suis
dommage.
J'avais poney.
Bon, comment ça fonctionne? On chante, on passe les 25 personnes qui chantent, qui dansent, et ensuite le jury délibère. Il y a 35 jurys qui délibèrent de chaque pays pour attribuer des notes, et ensuite le public vote.
Question comme ça, il y a des pays qui ont quand même boycotté. Est-ce qu'ils avaient quand même des membres du jury?
Ah, bah oui.
Ouais, d'accord, ok. Donc ils ont boycotté les chansons, donc ils pouvaient pas être élus, mais en revanche ils pouvaient élire.
Oui.
D'accord, ok.
Alors le premier constat, c'est que la prestation était préférée du jury, qui l'a placée en 4e, mais avec seulement 14 points du public. Nous sommes passés à la 11e place, loin de notre place favori. Et le deuxième constat, c'est que le choix de France TV et du comité français, deuxième constat, le choix de France TV et du comité français d'envoyer Monroe. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un acharnement ou une défaite méritée?
Moi, pour moi, c'est une défaite méritée. Je vais me lancer direct comme
ça.
Alors, moi, je vais dire pourquoi. Pour moi, je suis désolé. c'est la France, on représente la France, elle est franco-américaine, elle a 17 ans, elle a un accent, c'est compliqué de comprendre quand elle dit les toits dans la chanson. Elle a un accent quand elle parle en live qui est assez compliqué.
En direct.
Ouais, en direct. Allez, 1 euro. Ouais. elle passe derrière des superstars, parce que l'année dernière, c'était Loane. Avant, il y avait Slimane. On est avec quelque chose d'assez compliqué. On a fait, en 5 ans, on a fait essayer de faire passer les plus grosses stars qu'on avait, pas ultra connues, sauf Slimane et Loane, mais on a essayé de les faire découvrir. Là, on vient avec quelqu'un d'inconnu qui a gagné une pseudo télécrochet. La chanson, c'est de l'opéra parce qu'elle est cantatrice avec d'une sorte de pop. C'est comme ça qu'ils l'ont nommée. Elle galère parce que la chanson est très dure. Ils ont voulu l'adapter pour elle entre des passages pop et des passages opéra. Donc elle doit chanter et après passer en mode cantatrice. C'est très compliqué. Elle pouvait pas en live réussir à faire tomber tout le monde.
En direct. Et ça ira pour le SMIC que vous le supprimez.
Moi, vous savez, j'ai arrêté de regarder l'Eurovision à partir du moment où j'ai vu Bilal Hassani. On est d'accord que l'Eurovision est censé représenter le pays.
Oui.
À partir du moment où on met des Bilal Hassani avec des perruques, des trucs comme ça, c'est un public ménagère et je trouve ça un peu scandaleux quand même de mettre ça en dehors du grand écoute.
C'est pas lui qui a commencé. On a commencé avec Conchita Wurst.
Ah oui, voilà. C'est vrai.
L'enfer, oui, c'est vrai.
Qui a lancé la tendance.
Ouais. Mais d'une certaine façon, juste pour revenir sur ce que vous disiez, Elliot, en fait, quand on regarde la qualité pure de la chanson de Monroe, si je m'arrête uniquement à ça, elle a une voix qui est assez exceptionnelle quand même, faut le dire. C'est-à-dire que pour le coup, c'est quand même une grande chanteuse. Et d'ailleurs, elle a une voix qui est sans doute meilleure que Loane ou d'autres, dans le sens où ses capacités effectivement de cantatrice sont géniales. Moi, je trouve que la musique n'était pas forcément adaptée. Je vous rejoins assez sur ce point, dans le sens où il y avait des moments où elle chuchotait presque. Oui. Et effectivement, elle remontait avec des notes qui appartenaient, tiennent plutôt à la musique classique. Après, dans le fond, ce qu'il faut pas oublier, c'est que... pour le public français, cette chanson, elle est pas si désagréable. Et d'ailleurs, même, j'aimerais dire, pour le public d'Europe occidentale, c'est une chanson qui a été plutôt appréciée, je crois, notamment, j'ai des amis italiens, espagnols, qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils avaient apprécié. En revanche, il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est que les goûts musicaux en Europe sont pas du tout les mêmes d'un bout à l'autre du continent. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, par exemple, l'Islande, les pays nordiques, les trois quarts du temps, c'est des espèces d'hard rock hyper particulièrement violents, extrêmement étranges, qui nous, pour nous Français, qui n'ont pas du tout cette culture du hard rock, est particulièrement inaudible, en réalité. Et d'ailleurs, le deuxième point, c'est qu'en réalité, nous, ce qu'on préfère en général, c'est des musiques, effectivement, soit plus classiques, soit plutôt pop. Et en réalité, je pense que la musique française en elle-même... déjà, s'exporte pas si bien à l'étranger en général, et ensuite...
ne s'exporte plus depuis qu'on fait du Joule. Ouais, mais à l'époque, vous parlez de La Vie en Rose, des classiques de la musique française, c'est connu mondialement.
Vous voyez, par exemple, les plus grands chanteurs français les plus connus, je prends Jean-Jacques Goldman, je prends Michel Sardou, je prends Daniel Balavoine, ils sont absolument inconnus à l'étranger. En réalité, je pense que la musique française en elle-même n'est pas forcément adaptée pour un public européen, notamment parce que c'est une musique qui se base beaucoup sur les paroles en général.
Voilà. Regardez Céline Dion, même si elle est canadienne.
Elle est canadienne.
C'est un public francophone et international.
Ouais, mais elle est québécoise.
Oui, mais elle est
française.
Elle venait dans une époque où on chantait. Là, aujourd'hui, quand on regarde la majorité des prestations, c'est des prestations qui ne sont pas forcément chantées. Il y a de la techno, il y a de la pop, c'est quelque chose qui bouge aujourd'hui. Et à côté de ça, je crois qu'on est les seuls à avoir chanté en français.
Donc t'as voté pour elle?
Non, je n'ai pas voté pour elle. On ne peut pas voter pour son propre pays. Et je ne vote pas.
David.
Pourquoi on ne peut pas voter pour son propre pays?
Eh ben non.
Ah ben je l'ignorais.
Eh ben voilà.
Et ben voilà. Et ça apporte de l'eau à mon moulin. Si je me permets l'expression.
J'ai pas regardé. Je suis honnête, j'ai pas regardé. Ça m'attire plus. En fait, je m'identifie pas. Je
n'êtes pas le public.
Ah ouais, non, je suis pas le public du tout.
Merci. Vous me dites quand vous vous réveillez, je vous appellerai. Si y a un sujet qui vous intéresse, vous me dites, vous m'envoyez un message. Alex.
Alors moi, je vais dire des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec tout ce que vous avez dit, mais déjà la première chose, c'est que, pour revenir sur votre question de base, c'est est-ce que c'était une mauvaise prestation? Est-ce que c'est normal qu'on ait gagné, qu'on n'ait pas gagné? Moi, je pars du principe, sans vouloir manquer de respect à Monroe, parce que je vous rejoins, Alexandre, je trouve qu'elle a vraiment une très très jolie voix, une voix très sympathique. Mais à partir du moment où on n'a pas vraiment réussi à gagner avec des personnalités comme Loane ou Slimane, qui sont pour moi beaucoup plus mis en avant
Oui, qui ont plus
d'épaisseur. C'est pas Monroe général, qui aurait fait un super score. Par contre, je voudrais aller sur un deuxième point. Est-ce que la France avait vraiment envie de gagner? C'est
j'allais
ça la vraie question.
J'allais y venir.
Parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a parfois des pays qui, je vais pas dire qui s'auto-sabotent volontairement, mais en tout cas qui ont une participation plutôt symbolique, plutôt qu'y aller pour la gagne. Parce qu'on sait que le pays qui remporte l'Eurovision devient organisateur la saison d'après.
Ah, vous pensez que d'un point de vue économique, on aurait voulu perdre pour ne pas l'organiser?
Alors, je dis pas que c'est le cas cette année. En tout cas, je sais que l'année de la participation de Slimane, où on était en année JO, c'était un débat.
C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est la Bulgarie qui va organiser.
Exactement.
Ça.
Exactement. Et l'Autriche avait remporté l'année dernière. Donc, moi, je me dis, est-ce que la France veut vraiment gagner quand elle va là-bas? On sait qu'on est déjà dans une situation économique compliquée. Est-ce que on veut vraiment se mettre un tel fardeau?
Bah, on a vu les JO, il n'y en a pas eu, non?
Comme je vous le dis, ça a été en tout cas le sujet l'année de la participation des JO, en tout cas.
Ouais. La France n'a pas voulu gagner volontairement. Je me suis renseigné, ça. À faire, c'est entre 20 et 40 millions. Quelqu'un les a en France?
Non, bah, 20 et 40 millions,
alors,
c'est pas énorme.
Il faut ajouter les coûts de production, les déplacements, l'hébergement.
D'accord, au global. Non, mais la facture est sans doute plus élevée.
Attendez, pas tous en même temps.
Et surtout quand on voit tout ce qu'on donne d'argent d'aide au développement à des pays étrangers ou autres, on a 20 millions. Non, mais.
Vous n'allez pas me dire. Regardez en vision, il y a l'immigration comme qui coûte cher.
Rien à voir avec l'immigration, je parle d'aide au développement. On donne de l'aide au développement à des pays d'Amérique du Sud. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est un budget, on donne aussi à l'Ukraine, par exemple, pour l'effort de guerre, donc 20-30 millions.
Ah, enfin, pareil, 20-30 millions, je crois que c'est les chips qu'on leur a donné.
Oui, c'est
hein,
ça.
Parce
ça
qu'on leur a donné
donc on les a. Mais donc on les a.
Oui, c'est ça.
On
mais ça, je suis d'accord avec la télé.
Non, oui, non, mais c'est ça. Oui, je sais, ça a été facile.
C'était facile.
Et il y a un truc qui est particulier aussi, c'est que nous, en tant que Big Five, c'est-à-dire qu'on fait partie des pays...
Gros 5, non, ça marche.
C'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il l'appelle. On doit verser une sorte de participation exceptionnelle parce qu'on est un gros pays qui participe et du coup on donne aux alentours de 400 000 euros. Comme
ouais,
ça.
Oui, bah après 400 000 euros.
Mais,
pardon.
Mais oui, c'est toujours mais comme c'est ça. Non,
c'est
on paye
comme
toujours
la contribution
plus
à l'Union européenne. Tu
on,
sais.
On paye toujours.
Non, mais là on parle
plus
de cacahuètes.
Mais on parle pas
c'est...
de cacahuètes. Non. On est là en train de faire des économies. Français, bon, mais non. On est là en train de faire des économies tous, enfin tous à part le gouvernement. Mais on est là en train
plus tard avec le
tous
festival
faire
de Cannes
des économies. Et on n'est pas, enfin, on n'a pas envie d'organiser ça. On est là à nous dire, bah, va falloir arrêter que France Télé arrête de faire ça.
Mais attendez,
et nous,
si,
qu'on
si,
arrête
pas
de faire
tous
ça,
en même
ça.
Temps, pas tous en
mais
même temps.
Mais s'il s'agit de payer 400 000 euros pour finalement avoir une victoire symbolique au global mais... et se dire enfin après, c'est que c'était quand la dernière fois, c'était c'est quoi la chanson, c'était comme un enfant aux yeux de lui. Non, c'était pas celle-ci, c'était c'est laquelle qui a gagné la dernière fois.
C'était un autre concours. Ça.
Le français, non mais la française qui a gagné la dernière fois, c'était pas justement.
C'était en 1960. C'était l'oiseau.
Oui, c'est ça,
chose.
L'oiseau en France, c'est ce que je chantais. Ouais, voilà. Je vous ferai la presta après en antenne, vous en faites pas. Mais non, non,
vous
mais
forcez pas, hein, vous forcez pas à la faire.
Ah, ok. super. C'est tout à fait comme ça alors. Non, mais effectivement, en réalité, bon, il y a quand même un prestige, etc. Je pense même pas que la question financière soit si importante là-dedans, mais effectivement, je pense que de manière générale, c'est sans doute les goûts musicaux européens. Et d'ailleurs, je me demandais, vous qui êtes spécialiste, Elliot, mais comment on décide qui est le candidat français à l'Eurovision?
Il y a un comité pour l'Eurovision français, plus ouais. France Télé qui l'envoie, qui est souvent décriée tous les ans parce qu'elle choisit soit une personne qui est très connue, mais bon, bah, la chanson ne convient pas, ou alors c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mmh. Voilà.
Donc, bon, on en a assez pour l'Eurovision. De toute façon, personne n'a regardé.
C'est en baisse.
Merci.
C'est
le journal personne, à part Elliot.
Oui. Je suis obligé, j'ai une chronique.
Nous allons revenir sur le Festival de Cannes, car en ce moment, c'est le 79e édition du Festival de Cannes. Le président du jury est le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook. Il y a énormément de personnalités et d'événements qui font le buzz pendant ce festival. Elliot, vous allez nous en parler.
Bah, il y a beaucoup de sujets. Déjà, le premier, c'est
le film sur Samuel Paty.
Effectivement, le film sur Samuel Paty, L'Abandon, qui est sorti en salle la semaine dernière et qui a été présenté au Festival de Cannes, a fait l'objet de plusieurs critiques. Donc, ce film revient sur les 11 derniers jours avant l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures lors d'un cours d'éducation civique. Alors, ça a fait beaucoup de débat, pourquoi ? parce que il y avait beaucoup de personnes qui, à la fin, ont critiqué à la fois la manière dont ça a été fait, la manière dont on a présenté le sujet, c'est-à-dire dire qu'un prof d'histoire géo qui avait montré des caricatures ont stigmatisé une certaine partie de la population. Et on a eu surtout...
Un streamer,
Green Cujo. Je ne sais pas prononcer son prénom. Voilà.
Faudra un cinquième mot pour le prononcer.
Il était dans l'émission Zen avec Maxime Biaggi, voilà, qui avait fait une émission qui avait énormément marché sur.
Paris Première.
C'était non, c'était sur Twitch. Il me semble qu'en fait, okay. En réalité, c'était une sorte de d'émission du soir qu'ils avaient lancé. Ils sont deux vidéastes et en réalité, lui, s'était fait justement sa notoriété à travers ça. Mais encore une fois, bon, qu'est-ce qu'il faisait au Festival de Cannes, c'est une autre question. Et peut-être que Bayard aura la réponse sur comment on se fait inviter. Mais
donc... moi je sais. Ah, on invite les mini streamers dès qu'il reste des places et que certains sponsors veulent essayer de renflouer ses caisses. Donc il permettent de venir contre invitation qui sont payées moyennement.
Pour de la visibilité.
On va revenir sur le sujet, donc le streamer Grim Cujo qui a vivement critiqué le film.
Oui. Alors normalement on doit avoir un son qui vient, c'est ça.
Oui. Merde. C'est un film dangereux. Je sais que ça va être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Patty, c'est un martyr tourné, d'accord. Mais il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame.
Et pour lui, le film vient remplir de préjugés des gens. Les musulmans, particulièrement, qui dit avec un stéréotype.
Un stéréotype.
C'est 4 syllabes, c'est compliqué, on sait. Il faut bosser, mais.
Donc pour lui, le stéréotype sur les musulmans.
Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens, ils applaudissaient. Ils applaudissaient quoi, franchement? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais, et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça.
Pour cet influenceur, pour couronner le tout, il revient sur le mode de Samuel Paty, qu'il dit teaser. Apparemment, pour rappel, la mort par décapitation, c'est juste un teaser.
Elle le minimise.
Pas montré, mais il y a la scène du meurtre. Ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakba avant de mettre le coup de couteau. Et après, genre, les flics arrivent et je suis en mode, ok les gars, faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Les méchants musulmans, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire.
Et pour finir, il nous dit pour qui il vote concrètement.
Pourquoi tu votes en 2027?
La réponse est déjà donnée. Votez Mélenchon en 2027.
J'en tombe des nues.
Bah, moi, j'ai encore un coup de gueule par rapport à ça. C'est que j'en ai assez que la gauche s'accapare un électorat musulman qui n'a absolument rien demandé. Et aujourd'hui, les gens de gauche associent le terrorisme aux musulmans. Et je pense que là est l'erreur.
Le terrorisme musulman en même temps en France, pardon, mais.
Oui, non, mais.
Je veux dire, s'il devait être associé à une religion, enfin, rappelez-moi le dernier attentat chrétien qu'il y a eu, c'est peut-être la Saint-Barthélemy, mais enfin,
oui, depuis. Pourquoi
c'est pas faux.
Non, je ne disais pas ça dans ce sens-là. Je disais ça dans le sens où, en fait, pourquoi un musulman ne devrait pas aller voir ce film et apprécier ce film?
Mais non, mais oui, non, mais ça, c'est.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fabulation où en fait,
oui.
On ne doit pas dénoncer le terrorisme sous prétexte qu'on est musulman. Ouais. C'est ça l'erreur.
Non, mais en réalité, moi, d'ailleurs, alors pour le coup, j'ai pas encore pu voir le film, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Je peux m'exprimer seulement sur les critiques que j'ai pu en lire. En réalité, moi, ce que je crois comprendre, c'est que déjà, c'est pas un film qui est si à droite que ça. Je mets des guillemets, bien sûr.
Non, il est simplement factuel.
Non, mais dans le sens où, si vous voulez, apparemment, les élèves blancs vont traiter dans le film, vont traiter Samuel Paty de raciste dans certaines scènes, ce qui évidemment n'existe pas en général et qui est un petit peu une concession dans un style Raphaël Enthoven ou autre de centre mou. mais en réalité, oui. Et puis d'un autre côté, c'est un film qui, apparemment est plutôt prudent justement en décrivant la réalité. D'ailleurs, qui a été validé par Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, ce qui est un point quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en réalité, le film correspond aux faits, globalement. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est plutôt réaliste. Et je pense que là où ça dérange vraiment, c'est qu'en réalité, ces gens-là ne sont absolument pas habitués, ça n'arrive jamais, que des musulmans soient présenté de manière négative et terroriste dans un film, ce qui est la réalité factuelle, quelque chose qui existe, on le sait, depuis 15 ans en France, mais ça n'a tellement jamais été montré, c'est-à-dire que même en réalité, vous regardez le film Novembre avec Jean Dujardin, c'est un film qui est très pudique sur cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est un film d'action, c'est un film qui montre effectivement qui montre comment se sont passés les attentats, etc., mais qui s'étend pas particulièrement.
Oui, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans sur les réseaux notamment qui ont poussé un coup de gueule et qui ont expliqué que eux au contraire étaient pour ce film et qu'il fallait le montrer.
Ah oui, absolument.
Je suis pas en train de faire l'avocat du diable,
d'accord, mais je parle de la gauche en général, dans le sens où, si vous voulez, justement, je pense que la gauche qui a une sorte de fétichisme pro-musulman, et d'une certaine façon, n'est tellement pas habituée à voir ça, est tellement habituée à avoir la mainmise absolue sur le cinéma français, que c'est pour ça que ça les choque. Ouais.
La culture. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, sur Michael Paty. Premièrement, moi, jamais j'aurais pensé que ce film irait au bout.
Ouais, parce
que
ouais.
Il y a une telle omerta, on contrôle tout, la gauche contrôle tout, etc., que franchement, il faut déjà saluer le fait que le film soit sorti, qu'on puisse le présenter, etc., ouais, ouais. Premièrement. Et deuxièmement, le combat de Michael Paty. On le rappelle peut-être jamais assez, mais souvent les familles de victimes sont, encore une fois, doublement victimes après, de la pression. Parfois, ça peut être de l'Élysée, ou ça peut être de ministres, ou ça peut être de médias, ou ça peut être de partis politiques, pour qu'ils ne s'expriment pas, pour leur faire dire que, en fait, c'est pas la réalité, qu'ils devraient parler comme ci, comme ça, etc. Et Michael Paty a tenu. Michael Paty n'a jamais cédé un mètre de ce qu'on devait lui dire au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, quand elle était dans les médias. Elle a tenu, comme le petit Elias, comme... Voilà, alors que pour la petite, malheureusement, la petite Lola, on a vu où le couple, enfin, on a appris que voilà, l'Élysée avait décroché le téléphone pour faire pression, etc. Donc vraiment, faut saluer Michael Paty, elle a tenu bon, et je suis très content, moi, que le film sorte.
Écoutez, nous allons tout de suite faire une pause et on va revenir avec les politiques qui montent les marches.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Cette année, plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement à Cannes pour assister au festival et ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de gens se demandent ce que des politiques font là et estiment que ça n'est pas leur place. On a vu entre autres Jean-François Copé, Najat Vallaud-Belkacem ou encore Aurore Berger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, les politiques ont leur place au festival de Cannes ? David ?
Aucun. Aucun, enfin je veux dire, non mais...
Radical.
Non, mais c'est pas radical. Je veux dire, avec tout ce qui se passe déjà en France, je veux dire, c'est pas le tempo. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il est où le lien? En plus, les gens, mais enfin, Jean-François Copé, Aurore Berger et Najat Vallaud-Belkacem, mais aujourd'hui, ça représente quoi? Je veux dire, que tu me dises encore quelqu'un qui a été ministre de la Culture, etc. Mais il est où le lien des gens? Quoi? Mot à finance. Alors, Jean-François Copé, on connaît la réaction. Mais vous savez, Mo participe. Alors au CNC, ils vont nous trouver une place de Mo, que Mo, oui, tu vois, est dans un ou administrateur, je sais pas quoi. J'ai Aurore Berger, à part voilà, donner des légions d'honneur là, comme ça, voilà, c'est fin de règne, donc ils profitent. Et Najat Vallaud-Belkacem, enfin, sortie des plaques.
Moi, ce qui me dérange, c'est surtout l'image qu'on donne aux Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à s'acheter un steak, n'arrivent plus à se nourrir. On a vu tout à l'heure un sujet avec des fraises Garriguette à 10 euros. Et en fait, on a l'image dans les médias de...
Quel rapport avec les fraises Garriguette? Pardon, je suis désolé, j'ai pas là. J'adore les fraises Garriguette, hein, c'est pas le souci. Pardon, je veux pas créer la polémique sur ce plateau, mais quel est le rapport?
Non, la paupérisation,
et on
a
voit
raison,
aujourd'hui des fonctionnaires, et notamment, bah, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, j'étais invité à une soirée très huppée, ça s'appelle Chez Alban, voilà, c'est assez connu à Cannes, et là, je me retourne, je vois Pierre Ninet, Vassili Schneider, et pour la troisième personne, Aurore Berger en train de danser, et on a fait la blague toute la soirée, voilà, où vont nos impôts, et moi, personnellement, ça m'a choqué, moi, j'y vais avec mes propres frais, et ça, c'est ce genre de personnes qui se font payer leur voyage, leur suite, on le verra plus tard avec Eric Morillo, leur suite dans des hôtels qui coûtent une fortune, et tout ça, avec l'argent de nos impôts, donc moi personnellement ça m'a vraiment choqué. Alexandre, vous vouliez réagir.
Moi, non, non, mais effectivement, alors déjà, petite thèse, qui connaît ici le nom de la ministre de la Culture?
Karine Peignard.
Catherine Pégard, vous êtes Pégard. Pas loin. Je pense que vous trois, vous ne le saviez. Si vous l'aviez quand même.
Moi, je suis resté sur Rachida Dati.
Ouais, bah c'est ça. Mais en réalité, bon, déjà, elle, on ne sait même pas si elle y était. On ne sait même pas ce qu'elle faisait. Et si elle,
si elle y était, qui
a de la légitimité pour y aller, c'était peut-être elle à la limite. Mais c'est vrai que Jean-François Copé, il est en train de sortir son livre sur le populisme. Comme quoi, il faut lutter contre le populisme. Et qu'est-ce qu'il fait? Meilleure réaction juste après, aller au Festival de Cannes. Enfin, vraiment, le type a tout compris.
Au moins, il est cohérent. Parce qu'il rejoint Edouard Philippe,
oui, exactement.
Donc il est cohérent.
D'une certaine façon, ça fonctionne bien dans son système. À côté de ça, en réalité, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'effectivement, on l'a dit pendant toute cette émission, mais période de difficultés budgétaires, période où en réalité, on sent une sorte de justement de vague de ras-le-bol des élites, en réalité, de ceux qui profitent. On sort de 6 mois de commission d'enquête sur l'audiovisuel public, où on montre justement tout le monde se gave d'argent public justement pour profiter des petits fours à Cannes et ailleurs. Et la meilleure chose que ces gens trouvent à faire, c'est d'y aller. En plus, Najat Vallaud-Belkacem, elle est à la Cour des comptes maintenant. C'est-à-dire qu'elle est censée gérer la manière dont est dépensé l'argent en France.
Oui, mais elle n'a pas payé pour y être. Du coup, elle a de l'argent pour aller.
C'est ça. J'imagine qu'avec son salaire de Cour des comptes, elle doit se faire plaisir, effectivement. Non, mais. Et puis, en plus, elle aura des indemnités d'ancien ministre plus tard.
Oh,
génial. Non, non, mais effectivement.
Il n'y a pas d'indemnité hein, quand t'es.
Si, ancien ministre.
Ministre.
Ancien ministre, si. Mais donc tout ça pour dire qu'effectivement si quelqu'un peut m'expliquer le rapport entre Jean-François Copé et la culture, je suis preneur d'explications.
Elliot.
Oh, j'ai pas d'explication pour lui. Moi par contre, je suis très content d'avoir vu Nathalie Goulet, la sénatrice, qui a tagué Emmanuel Macron pour lui dire mais que font les ministres là-bas?
Bravo. Ouais.
Bah oui, mais elle a fait ça 2 fois et Jean-François Copé, que fait-il là-bas? Mais au moins, c'est bien qu'ils se balancent entre élus.
Après, j'aurais quand même bien dansé avec Aurore Berger et Pierre Dinet. Voilà, ça aurait été peut-être.
J'ai la vidéo.
En soi, le seul problème dans ce sujet, c'est le moment où ça se passe. On est dans une situation économique compliquée. Je pense que si on n'est pas dans une situation si dramatique, c'est un non-sujet en soi.
Donc toi, si on est en. Enfin, on n'a pas de problème d'oseille pour l'État. T'envoies tous les ministres gratos.
Non, justement, c'est ce que je dis. Ce qui est malheureux pour eux, c'est que ça tombe à un moment où la situation est compliquée.
Oui, mais si la situation n'est pas compliquée, tu t'envoies tout le monde sans problème gratos.
Ils n'étaient pas tout le monde. Ils étaient à même pas 5. Donc, moi, je.
À mon avis, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas connus du grand public et qui doivent aussi passer dans les filets. On sait comment ça se passe.
Il y avait certainement toute une délégation, mais moi, je pense qu'on est dans une société et génération réseaux sociaux et où en soi on a créé un bad buzz autour de ça parce que la situation économique du pays est dramatique. Si la situation n'est pas si compliquée, je pense que c'est un non-sujet.
Non, mais le fait d'aller passer sur le tapis rouge pour faire prendre en photo,
c'est surtout ça. En fait,
des ministres qui te disent
c'est plus dans la
pas.
Forme que sur le fond, oui, je pense que c'est un gros problème.
Et pas qu'une seule fois, Aurore Berger, on l'a vu plusieurs fois. Hein. Oui. Vous savez, ça coûte cher, hein,
oui,
toutes ces robes.
Oui.
Alors ça coûte combien toutes ces robes
Ah, moi, écoutez, on me l'a prêté et c'était du Made in France.
Ah, bah bravo.
Mais Alex, ça a raison, je pensais. Si moi, il n'y avait pas autant de problèmes
d'économie, en fait, c'est pas tous en même temps, Alex.
Pour moi, c'est un non-sujet qui devient un sujet à cause de la situation et pas du sujet en lui-même. C'est tout ce que je vois. Donc, je dis pas que j'ai apprécié les voir sur le tapis rouge. Je dis pas même que j'ai pas été jaloux de les voir sur le tapis rouge. Mais pour moi, c'est un non-sujet qui en devient un à cause de la situation et ce n'est pas le sujet qui en est un. Pour moi.
Tu vois les invités, franchement, il n'y a pas grand-chose à envier. Quoi.
Oui, mais pour avoir eu des proches de ministres, enfin d'anciens ministres, ils te disent si t'es pas la ministre de la Culture, tu n'as rien à foutre sur le tapis rouge. Je suis désolé, tu ne montes pas les marches.
C'est vrai que d'habitude, il est d'usage que seule la ministre de la Culture y aille.
Je vous ai ramené justement cette photo où on voit André Malraux en 1959 avec Michel Morgan et Jeanne Moreau. Franchement, tu vois le décalage avec aujourd'hui.
Et maintenant, on a Grim Cujot. On a Grim Cujot, c'est génial, c'est vraiment.
Thibaut InShape
en plus, oui, effectivement.
Vous voulez aller là-dessus, attendez pas tous en même temps.
Non, ben,
c'est les temps, t'es bien obligé d'en parler.
Vous en avez pensé quoi du coup?
Thibaut InShape, bon alors là.
Thibaut InShape et Artus, parce qu'en soi, c'est.
Ah, j'allais dire, et la robe d'Artus.
La jupe, parce que c'est un dossier global en soi, je pense, c'est un petit peu le dossier polémique look de star.
Oui, moi je suis d'accord. Écoute, ça donne le tempo de ce qu'on a en ce moment, de comment faut s'habiller, des influenceurs qu'on a.
C'est un autre sujet. On va passer sur France TV, qui est toujours présent. Éric Morillo va bientôt nous rejoindre, accompagné de Jean-Jacques Cordival, président CGC Média. Elliot. Vous vouliez nous parler de France TV qui est toujours présent malgré les commissions.
En effet, on vient de finir une commission assez grave sur l'audiovisuel public et France Télé, toujours présent, toujours là pour soutenir le Festival de Cannes, comme ils aiment le dire. Donc depuis 2022, ils aiment bien délocaliser toutes leurs émissions, enfin les changer les noms, les renommer pour Cannes. Donc un peu les canifier. On a C'est à vous qui y allait, comme tous les ans. On a C'est ce soir qui devient Cannes ce soir.
Oh.
C'est génial, non? La grande librairie.
Qui s'adapte.
Beau geste. Et puis on a le 20h30 aussi de Delahousse, là-bas, avec Travolta la semaine dernière. Qui on aura demain? Je ne sais pas.
Non, mais après, qu'ils soient là-bas, c'est pas une aberration en soi. C'est-à-dire qu'ils font ils sont là pour faire leurs entretiens, ils sont là pour... finalement, justement, on a eu John Travolta en entretien, on a eu pas mal de monde.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'ils sont là pour faire des entretiens, pour faire des choses. Moi, j'ai pas de problème qu'on en délocalise le JT là-bas, ça peut être sympa. Par contre, pour revenir au sujet qui a posé le plus problème, c'est quand même l'affaire de du Majestic, de ses frais.
Justement, on va revenir sur ce sujet, pardon. Jean-Jacques Cordival, président CGC Média, est avec nous. Bonjour. Ainsi que Éric Morillo, auteur. Bonjour, vous allez bien? Vous nous entendez?
Oui, ça va, je vous entends.
Donc vous êtes l'auteur Les Intouchables de l'audiovisuel public. Merci d'être avec nous. Elliot, je vous laisse la main.
Bonjour, bienvenue. Du coup, on parlait justement de ces frais exorbitants de France Télé et de surtout Delphine Arnault. Vous avez fait votre livre dessus avec un énorme passage sur les barteurs, comme ils les appellent.
Livre d'ailleurs, excusez-moi, je fais une parenthèse, qui est actuellement numéro 1 des ventes partout.
C'est normal quand on révèle toutes ces choses-là.
Et en rupture de stock.
Attendez, quand vous aurez vu les factures à la fin.
Incroyable les factures à la fin.
Du coup, vous avez évoqué beaucoup de dépenses, des dépenses très importantes à Cannes. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce que vous avez vu et ce que vous avez révélé?
Alors, écoutez, d'abord, merci de me donner la parole, parce que c'est un jour un peu particulier pour moi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec un procès France Télévisions qui a rendu son jugement aujourd'hui en première instance. Donc, je vous en parlerai, j'espère, tout à l'heure. Non, mais en effet, merci de le relever. C'est un des points les plus importants de cet ouvrage, donc Les Intouchables de l'audiovisuel public. Aux éditions L'Artilleur, c'est en effet qu'on a réussi à se procurer cette fameuse facture donc du Majestic adressée à cette société Global Business Travel, mais qui est en réalité le cash de France Télévisions, puisque c'est l'agence de voyage qui est en charge donc des transports et des séjours lorsqu'il y a des déplacements, donc des cadres de France Télévisions. Et on a réalisé en effet qu'il y avait donc cette facture avec un peu plus de 112 000 euros facturés, avec derrière le nom de toutes les personnes donc qui étaient censées avoir des chambres en 2023 au Majestic. Donc il y avait Delphine Arnault, il y avait donc le secrétaire général Christophe Tardieu, il y avait le monsieur cinéma de France Télévisions Manuel Alduy, il y avait Stéphane Sidmon Gomez, le numéro 2, et puis il y avait les coproducteurs de tout le dispositif de Cannes pour France Télévisions, donc à savoir Renaud Levent-Kim et Guillaume Lacroix, donc qui sont les cofondateurs de Brut et accessoirement pour Renaud Levent-Kim à la tête de Together Media, une société de production qui est très très bien fournie en matière de programme sur France 5, mais c'est encore un autre sujet. Et donc sur cette facture, donc on a relayé d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux, on voit qu'il y a en effet la note, et puis il y a quand même plein de choses qui ne vont pas, puisque la théorie c'était de dire que ça n'avait rien coûté aux contribuables parce qu'il y avait eu une convention de barter, donc en gros en quelques mots le barter, une convention de troc, c'est pour dire quand il y a des invendus en matière publicitaire, et ben on les échange contre une nuit d'hôtel. Sauf que là où c'est un petit peu ennuyeux, c'est que la convention de barter, sauf à me tromper, puisque Jean-Jacques Cordival, d'ailleurs, on peut lui rendre hommage avec son syndicat, est un de ceux qui a mis l'affaire en justice. On n'a jamais vu de convention de barter, on n'a jamais vu les spots de pub qui auraient été donc l'objet du troc. Et puis surtout, on voit que sur cette facture, il y a une mention où il y a écrit les arts. Donc, et en général, quand on verse des arts à un hôtel, c'est justement pour réserver à l'avance, et donc pour se sécuriser la réservation. Donc on réserve à l'avance et qu'on verse des arts, donc à peu près une somme importante. Donc là, il y a même 95% d'arts, enfin c'est absolument incroyable. Et donc ça ne veut pas du tout dire que c'était en dernière minute et que c'était fait à l'avance. Et puis alors ce qui est drôle, en effet, cette année, c'est qu'il y a Christophe Tardieu, d'une intervention de sa part, à la fois à la suite de la commission d'enquête, puis je crois même lors de la commission d'enquête, qui a indiqué que cette année, ils allaient se serrer la ceinture.
Oui, c'est alors, ça. La ceinture, c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Eh ouais, elle doit pas avoir beaucoup de trous parce qu'en gros, les éminences grises de France Télé sont passées du Majestic au Grédalion. Alors, pour que les gens sachent, pour ceux qui connaissent pas Cannes, la différence entre le Majestic et le Grédalion, c'est un peu, et encore, j'exagère à peine, la même chose qu'une différence entre une Ferrari et une Porsche. C'est-à-dire qu'on est
passé... Il manque juste la piscine, quoi.
Voilà, il manque la piscine, exactement.
On est dans le coin.
Et on a interviewé justement un site comparateur juste avant Cannes, et on pouvait trouver en effet des chambres au Grédalion. C'était même pas des suites sur la mer, c'était côté ville, et ça coûtait pour 12 nuitées du 12 au 23 mai, à peine donc, 1 657 € par nuitée de mémoire.
Il faut minimiser parce que c'est en face du, voilà. C'est en face du palais, au moins c'est plus facile pour aller signer des contrats.
Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de prendre de taxi. Donc voilà, donc tout ça montre, et ça c'est un des éléments parmi tant d'autres, bah Jean-Jacques pourrait le dire plus que moi, à Cannes il y a beaucoup de choses qui sont absolument édifiants, et puis il y a eu aussi ces révélations sur Martin Ajdari. Bon là Jean-Jacques, je pense que tu peux peut-être rebondir là-dessus si tu le souhaites, mais en tout cas voilà. Donc c'est, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on a révélés dans cet ouvrage qui n'ont pas été forcément révélés dans le rapport de la commission d'enquête du travail remarquable, hein, je le redis, de Charles Lalonde. Mais si vous voulez un rapport de commission d'enquête, c'est près de 600 pages, je crois, oui. 551 pages. Donc on pense que tout le monde n'aura pas le courage de se taper, hein, si je puis dire, les près de 600 pages. Et donc on s'est dit, bah, on va mettre l'accent sur les choses les plus importantes. Et puis bah, voilà, chaque jour... Bah,
vous parlez d'ailleurs des intouchables, de chez France Télé.
Et oui, parce que les intouchables, c'est aussi par rapport à l'idéologie woke, mais ça, on peut en parler. Mais il y a plein d'éléments, vous voyez, que j'ai même pas pu mettre dans ce livre faute de temps. Voilà, c'est en effet les révélations autour de possibles agressions sexuelles qui auraient été couvertes. Mais là, c'est Jean-Jacques qui a découvert ça. Donc, s'il veut prendre la parole.
C'est pas Jacques Cardoz qui a découvert ça.
Jacques Cardoz en a parlé, voilà, lors de la commission d'enquête. Mais il se trouve qu'à l'époque, c'était en 2012, je crois, c'est nous qui avions défendu, c'est moi d'ailleurs, puisque j'étais délégué syndical ouvrier, on appelle ça comme ça, qui avait défendu les deux personnes qui avaient été virées parce que vous avez tout simplement rapporté des faits d'agression sexuelle qui se sont déroulés sur une émission de TADI, et ils ont été l'un et l'autre virés. Voilà. Et il y a une des deux qui était enceinte, et donc là, elle avait fait, elle, une procédure au pénal, elle avait saisi la Halde. Ils ont attendu que la Halde ait rendu son rapport, qui était quand même assez vitriolé, et puis du coup, ils ont finalement signé un accord, mais uniquement sur sa grossesse. On n'a pas parlé des faits délictueux, et donc, juste après, bah, ils l'ont viré. Voilà. Et qui a signé? Bah, je vous le donne en mille, le président de l'ARCOM, Ajdari, aujourd'hui. Mmh. C'est drôle, non? Oh. Voilà, ces gens qui viennent nous expliquer comment on doit se comporter, c'est lui qui a signé.
David, vous aviez une question.
Monsieur Gordival, bonjour. Sur les bons conseils de Carla, évidemment, j'ai regardé les auditions et il y a quelque chose qui revient souvent de la bouche de Delphine Ernotte, c'est pourquoi Jacques Cardoz, au moment où il est parti, parce qu'elle raconte que Jacques Cardoz est venu dans son bureau et l'a remercié, etc. Pourquoi Jacques Cardoz n'a rien dit à ce moment-là et qu'il l'a même remercié, etc. Ce que je veux dire, c'est, je cherche pas. Ah non, mais évidemment,
moi pour avoir
attendez, Elliot,
Jacques
veut rebondir
Cardoz,
et
pour avoir appelé des gens de son documentaire, il y a des accords qui ont été passés même après le documentaire, qui ont fait que le documentaire n'a pas pu être passé pour dire de la part de France Télé. Bah, le documentaire qui avait été fait par H2O Productions avec Cardoz.
Bien sûr, il est resté sur une étagère.
Exactement.
Bah, vous savez, c'est assez simple. Qui a des actions, ou en tout cas qui est partenaire de Banijay, entre autres, c'est le groupe Bolloré, à 17, 18, 19%, j'ai plus exactement le chiffre en tête. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont dû faire un petit deal en disant, nous, on arrête de travailler avec Banijay si vous diffusez le document. Probablement, il y a apparemment une chose comme ça. Voilà, donc le document n'a pas été diffusé.
J'ai pas tout le contexte. C'est quoi exactement ce document dont vous parlez?
Encore une fois, il y avait un document qui était fait sur Hanouna. Donc Hanouna, vous vous souvenez, hein, donc complément d'enquête. Hanouna voulait rebondir en disant, nous, on va faire un document sur Ernotte.
Ouais,
en fait, je cite Hanouna, il avait dit, ça sera diffusé au moment du changement d'heure.
Exactement.
Bon, le changement d'heure est passé il y a un petit moment déjà. C'était l'année dernière et même l'année d'avant. On attend toujours le changement d'heure, mais il a bien changé, mais il n'y a pas eu de document.
Alex, vous voulez réagir
dans les tiroirs.
Pour qu'Alexandre ait le contexte, l'émission donc s'appelle Complément d'enquête, et au moment où l'émission sur Cyril est sortie, Cyril a eu l'idée de faire une enquête de complément,
Exactement.
Donc pour contrecarrer, on va dire, le complément d'enquête, et qui serait du coup comme un complément d'enquête, mais sur l'audiovisuel public et complément d'enquête, qui devait s'appeler du coup enquête de en complément.
Et du coup, il y a eu plusieurs révélations de Jacques Cardoz qui a été, qui ont été assez grosses, parce qu'il révélait qu'il y avait des accords, donc ce qu'il a révélé pendant les commissions d'enquête, qu'il y avait des accords qui avaient été passés pour des actes assez sombres. Pour rester flou, entre guillemets.
Moi, je vous invite à aller sur le blog CGC Média, il y a à peu près tous les détails, mais surtout à aller regarder soit la lettre ou soit la lettre A, parce que là, il y a un dossier, il y a une enquête qui a été faite, c'était hier et avant-hier, c'est extrêmement précis. Et donc, je le redis, qui a signé cet accord transactionnel, mais uniquement sur la grossesse, parce que mettre les faits délictueux dans cet accord, c'était soi-même révélé qu'on essayait par un accord de couvrir des faits délictueux. Et ça, c'est pas possible dans la loi. On peut pas couvrir avec un accord des faits délictueux.
Excusez-moi, on va revenir sur le Festival de Cannes. Elliot, vous aviez d'autres questions.
Moi, j'avais d'autres questions sur le Festival de Cannes. Aujourd'hui, il y a toujours les mêmes moyens qui sont déployés au final. Est-ce que c'est les mêmes coûts?
Ça coûte 2,6 millions d'euros quand même.
Pour quel résultat? Pour 10 minutes d'antenne dans la journée et puis la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture, 2,6 millions que ça coûte, parce que encore une fois, on fait ça avec Together Media, d'ailleurs Together Media qui a été racheté par Saadé, comme tout le monde sait aujourd'hui.
Mais pourquoi, France Télé a repris les droits du coup après que Canal l'ait lâché?
C'est une bonne question.
Excusez-moi,
c'est une très très bonne question. Quand Levent Kim était à la commission d'enquête, il est allé dire oui, mais enfin révéler le prix du contrat, c'est moi me mettre dans l'impossibilité, encore une fois, de faire une espèce d'appel d'offres que les uns et les autres puissent se renchérir. Mais Canal+ n'a jamais eu l'idée de reprendre le Festival de Cannes. Je crois que Brice Viré et même Bolloré l'ont dit clairement dès le départ, dès 2021, dès 2022, il n'a jamais été question de reprendre le Festival de Cannes. Donc c'était une supercherie supplémentaire.
Voilà. David, je vais aller dans le sens.
Voilà, c'est exactement ce qu'a dit Monsieur Cordival. Vincent Bolloré l'a dit lors de son audition. À un moment, ils sont montés trop haut et on n'a pas voulu suivre.
C'est le roi des... Enfin, il
Vincent Bolloré et Maxime Saada ne se cachent pas d'être dans une dynamique de travailler efficacement, et c'est vrai que pour eux, ça avait aucune plus-value autant sur la visibilité que financièrement de participer au Festival de Cannes.
Eliott, vous aviez une question pour Eric.
Oui, exactement. Vous êtes assez virulent avec Delphine Ernotte dans le livre, que vous avez attaqué à plusieurs endroits, même plusieurs chapitres, pour ces gestions un peu délictueuses, même si on n'a pas de délit qui a été recensé. Mais pour vous, c'est elle qui est la cause de tout ce naufrage budgétaire?
Ah ben, d'abord, c'est une catastrophe financière, il faut quand même le dire. Au-delà de Delphine Ernotte, ce qu'il faut dire, c'est que la Cour des comptes l'a relevé tout le temps. Les finances de France Télévisions, c'est une catastrophe, quoi que dise Delphine Ernotte ou son numéro 2. Ça, c'est pour le premier point. Le second point, et c'est en effet l'objet du premier chapitre de CIF, c'est qu'on a hésité d'ailleurs longuement à appeler ce livre donc la caste, parce qu'en gros... on considérait que les intouchables de l'audiovisuel public s'appliquaient encore mieux, mais on aurait vraiment pu l'appeler la caste, parce qu'en gros, on fait tout un chapitre où on révèle justement comment Delphine Ernotte est arrivée donc aux manettes de France Télévisions, ce qui est absolument incroyable, parce qu'il y avait une loi de 2013 qui stipulait que pour être président de France Télévisions, et pour même avoir le droit de candidater, il fallait, ce qui est somme toute un peu la moindre des choses, ce qui est normal, avoir une expérience dans les médias. Or, Delphine Ernotte, qui venait d'Orange, n'avait aucune expérience dans les médias. Bon, ça, c'est le premier point. Puis ensuite, il y a eu des choses quand même curieuses. Ça, c'était la loi de 2013, donc en 2015, donc elle candidate auprès de l'ARCOM, anciennement c'était le CSA, tous les PV d'audition, comme par magie, ont semble-t-il disparu. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas claires du tout dans sa nomination, et en effet, on peut se poser tout à fait légitimement la question de savoir si Delphine Ernotte, aujourd'hui, est légitime ou non à la tête de France Télévisions. Donc ça, c'est vraiment un point important dans le livre, et puis évidemment, on passe aussi sur le dévoiement, si vous voulez, de la mission de service public, qui était celle, en effet, qui aurait dû être celle de France Télévisions au départ. Je vous ai parlé des citations de Delphine Ernotte, qui dit qu'elle veut qu'on représente la France, non pas comme elle est, mais comme elle souhaiterait qu'elle soit.
En effet.
Je vous ai parlé, c'est Fatih Bon de Gomez qui dit que pour crois, alors à vérifier au mot près, mais bon, en gros, c'est pour aller de l'avant ensemble, il faut voir ensemble. Voilà. Donc, en gros, tout ça, ça participe, si vous voulez, d'une réflexion et d'une vision du monde wokiste, progressiste. Ils ne s'en cachent pas. D'ailleurs, même Laurence Bloch, l'ancienne directrice de France Inter, a dit que c'était inscrit dans le cahier des charges de Radio France, parce qu'on parle beaucoup de France Télévisions, mais c'est quelque chose aussi, France Inter. Et voilà. Donc, au mais final.
Alors, justement, vu que vous parlez de la différenciation entre les deux, il y aurait des bruits de couloir qui diraient que Delphine Ernotte refuserait d'accepter toutes les recommandations de Charles Alloncle versus Radio France, qui aurait, enfin Sybille Veil, qui aurait entre guillemets fait un accord pour accepter toutes les recommandations parce qu'elle est d'accord sur le fond et potentiellement la forme. Est-ce que c'est vrai?
Alors, en tout cas, il y a une chose, moi je vais prendre la parole deux secondes, mais il y a une chose qui est tout à fait incroyable, c'est que, quand bien même elle est acceptée, Sybille Veil, moi je fais une petite distinction entre la gestion de Sybille Veil et la gestion catastrophique de Delphine Ernotte, comme vient de le dire Eric. Mais vous avez déjà vu ça, vous avez quelqu'un qui rend un rapport, et puis Delphine Ernotte, juste derrière, dit « ben non, votre rapport il est faux, je vais en faire un autre ». Voilà, et elle pond 130 pages de rapport en disant ce qui a été dit est faux. Moi, je trouve que c'est formidable. Vous imaginez dans quelle démocratie on est aujourd'hui? Moi, je me souviens qu'il y avait un président de la République qui avait dit il y a 10 ans on va avoir une République exemplaire et vous allez voir, on va retrouver les valeurs de la République. Alors, moi, je ne sais pas où elles sont les valeurs de la République quand on dit que la Cour des comptes s'est trompée, que l'inspecteur général des finances s'est trompé et que finalement la commission d'enquête dit n'importe quoi. Moi, je serais le président de la République, je l'aurais appelé directement en disant « Madame, vous bafouez les symboles de la République, les organes de contrôle de la République, vous êtes dehors !» C'est aussi simple que ça.
Alexandre, vous vouliez réagir ?
Ouais, mais en fait, il y a aussi un point qui n'est pas négligeable, c'est évidemment le rôle de l'ARCOM dans tout ça, parce qu'on sait que maintenant, c'est l'ARCOM qui nomme les présidences de France Télévisions. On sait que François Hollande était intervenu personnellement pour le cas de Delphine Ernotte. Oui. Mais il y a un point qui sera à suivre, c'est que ce vendredi matin, c'est une info que je tiens de l'excellent directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Richard De Seize, si jamais il m'entend. Ouais. Mais effectivement, ce vendredi matin, il y aura une conférence qui sera donnée de presse, qui sera donnée par l'ARCOM, donc par Martin Adjari, sur l'impartialité du service public. Donc il y a des trois volets soulevés par Charles Alloncle durant sa commission d'enquête. Je pense que forcément, ce sera à suivre pour une raison simple, c'est voir si en fait ils prennent ne serait-ce qu'un peu en considération l'intégralité des recommandations et même l'écho national qu'a eu la commission d'enquête de Charles Alloncle.
David, vous vouliez réagir ?
Vous voulez que je vous dise un petit truc ? Vous savez qu'on a une plainte pour faire invalider le troisième parachutage de Delphine Ernotte. Oui. Quand vous avez un président de l'ARCOM qui écrit, c'est une plainte pour faux intellectuel qu'on a déposée, faux usage de faux bien évidemment, puisque c'est publié au journal officiel. Quand vous avez un président de l'ARCOM qui écrit noir sur blanc, l'autorité s'est fondée sur les engagements de Delphine Ernotte à mettre en place une comptabilité analytique et que cette dernière vous répond en commission d'enquête « Ah, mais elle existe, la comptabilité, elle a été mise en place dès que je suis arrivé. » Alors, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Il y en a bien un des deux qui ment. Ça, c'est pas normal. Voilà ce que je veux dire. Donc, on en est là aujourd'hui. S'il y avait une comptabilité analytique, on aurait pu distinctement savoir quels étaient les frais de tournage, les frais de bouche, entre guillemets, et les frais quand il y a eu le Covid. Mais on n'a pas tout ça. Voilà. On n'a pas ce détail-là.
Est-ce que Sybille Veil a eu la tête de Nagui à Radio France? Pour vous.
En tout cas, on peut s'interpréter sur le fait que c'était la clause numéro 29 de recommandation de Charles Alloncle dans c'est qu'en effet de dire qu'un animateur de France du service public ne pourrait plus être producteur. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est quand même étrange. Bon, il y a plein de gens qui laissent entendre que c'était prévu de longue date. En tout cas, Nagui va quitter France Inter, donc ne va plus être salarié du service public et ne va plus rester que producteur. Donc, en tout cas, le hasard est tout de même troublant.
Mais du coup, je me permets, monsieur Morillo, donc vous pensez que ces suspicions de contrat qui étaient depuis des mois en cours de cessation, vous pensez que c'est... de la com' médiatique.
Je trouve que le hasard est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'il y a cette...
Nous, on a une plainte qui est en cours depuis maintenant plus de 5 ans pour un contrat pluriannuel qui a été fait dans des conditions invraisemblables où Delphine Ernotte a filé à la société de Nagui 100 patates. 100 millions. Voilà. Ça vous rappelle rien, les patates?
Si, mais
les voleurs de patates, ça vous parle, les voleurs de patates?
Excusez-moi, non, pour monsieur Gardiva, pour rebondir sur Nagui, j'ai écouté aussi là son audition. Il dit que à chaque fois, on est venu le chercher. Je veux dire, il a pas, il dit parce que il y a beaucoup de fantasmes, etc. Il dit à chaque fois, on est venu me chercher. Bon, il me dit, je faisais autre chose, j'allais chercher d'autres émissions, etc. Il dit, à chaque fois, je venais éteindre les incendies de Laurent Ruquier, de un tel, etc.
Mais ce monsieur, ça même, il a quand même une autre opinion de lui-même, quand même, pour dire ça. c'est quand même assez gratiné. Alors, visiblement, les autres sont des ringards et lui, c'est le roi, quoi, c'est ça.
Bah, de toute façon, que ce soit son audition ou son passage dans Quotidien quelques jours après, je pense que oui, on a vu qu'il a une certaine estime de lui et je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, je pense aussi que c'est quand même un animateur qui est très en vogue dans le paysage audiovisuel français. Je pense que, comme dit Monsieur Hacha, à France TV, c'est quand même quelqu'un, je pense, qu'on vient chercher.
Il est surtout en vogue à France Télévisions.
Bien sûr.
Voilà. Exactement, Eric, il est surtout en vogue à France Télévisions.
Mais ça reste une personnage emblématique du PAF, malgré tout.
Et d'ailleurs, Eric, puisqu'on parle d'audiovisuel public, il y a aussi cette affaire qui vous oppose à Léa Salamé et France Télévisions. Pour rappeler les faits, vous accusez l'émission Quelle Époque d'avoir diffusé un extrait des Incorruptibles sans autorisation préalable. De son côté, France Télévisions évoque le droit de courte citation. L'affaire a beaucoup fait réagir ces dernières semaines dans le monde des médias et le jugement s'est tenu mercredi dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette affaire ?
Bah oui, le jugement s'est tenu mercredi dernier, en l'occurrence, et ce mercredi, en effet, à 14h, j'ai donc pu obtenir le jugement. Et donc, en première instance, je vous annonce, et c'est absolument incroyable ce jugement, parce qu'en gros, je recontextualise un tout petit peu, il y a quelques années déjà, puisque c'est très long, vous savez, un parcours judiciaire dans notre pays, il faut vraiment être courageux et patient, hein, avant d'avoir son dossier qui est plaidé et jugé. Donc, il y a quelques années, je suis chez moi, et puis un soir, je suis devant ma télévision, et là, au miracle, je regarde l'émission de Léa Salamé, qui est donc facturée, je pense, très très cher, hein, si on ne veut pas que les Russes nous la volent, hein, c'est très très cher, c'est incroyable. Et donc, je regarde, et à ma grande surprise, je regarde une chronique humoristique de Philippe Cavrivière, qui a quitté depuis l'équipe de Léa Salamé, et je vois qu'il y a une chronique humoristique et qui parle de Daniel Guichard, évidemment, pour se moquer de lui, et qui tout d'un coup passe un extrait, et là, je tombe limite de mon canapé, je vois un extrait de mon émission. Évidemment, sans aucune mention de crédit, ne me citant pas, évidemment, je vous épargne le fait que jamais ils ne m'ont prévenu, jamais ils m'ont donné l'autorisation, jamais ils ne m'ont proposé initialement le moindre argent pour me diffuser, et donc ils diffusent un extrait de cette émission. Et donc moi, mon sang ne fait qu'un tour, le lendemain, sur les réseaux sociaux, j'apostrophe toute l'équipe de Quelle Époque, et puis les équipes de France Télévisions également, pour leur dire ça va au niveau du respect des droits d'auteur, des crédits et tout ça, ça va, vous êtes tranquille.
Vous auriez pu vous auriez pu vous dire que ça vous est un coup de pub.
Non, mais ça ne me fait pas de coup de pub du tout, puisque justement, ça me ferait un coup de pub si on me citait, si on disait on pouvait trouver l'émission. Là, il n'y avait rien. Il y avait tout d'un coup, juste, on avait l'impression que c'était limite un ersatz de Quelle Époque qui avait pu être tourné à côté. Sauf que là, manque de peau, bah, évidemment, moi je reconnais évidemment mes images si particulières, puisque évidemment, voilà ce qui s'est passé. Je vois ça, donc je contacte France Télévisions. France Télévisions, à ce moment-là, me renvoie vers le producteur. Donc c'est Léa Salamé, bien sûr, mais elle a un coproducteur qui s'appelle
Vous
n'aviez
pas pu envoyer une facture juste pour l'extrait ?
Alors justement, je peux pas puisque je ne savais pas que j'allais diffuser. Donc moi, j'envoie des factures quand on me demande des choses. Donc à ce moment-là, s'ensuit d'abord, j'ai un mail de reconnaissance de l'infraction par un employé de la boîte de prod qui s'excuse et qui, à la suite de ça, me dit bah voilà, pour régulariser le truc, on vous propose. Et il me proposait, je crois de mémoire, c'était 1 200 € hors taxe. Donc là, je leur dis juste, vous savez, quand on achète un tapis dans un magasin et qu'on le met chez soi, on négocie prix pas chez soi, dans le magasin. Donc je leur dis, écoutez, là, voilà, la négo, vous n'êtes pas vraiment en position de force. Vous m'avez déjà volé mes images, vous les avez diffusées, donc moi, le prix, ce sera ça. Et honnêtement, je leur donne un prix qui est un tout petit peu supérieur, mais qui n'est pas outrancier. Et là, au lieu de s'écraser et d'avoir juste, pour juste terminer l'affaire, au lieu de me dire « on va vous régler », eh bien, si vous voulez, ils me font un gentil bras d'honneur, c'est une image. Et donc, ils me disent « allez vous faire voir ». Et donc, je décide d'aller en justice. Et donc, je décide d'aller en justice. Et là, évidemment, je me suis intéressé un peu au droit de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur et de ce qu'on pouvait dire quand on invoque la fameuse courte citation, puisque c'est autour de ça que ça a tourné. Évidemment, la courte citation ne s'appliquait pas du tout en l'espèce, c'est-à-dire le droit de pouvoir mettre des images sans demander une quelconque autorisation. Il faut être dans c'est un contexte très encadré juridiquement. Et puis, évidemment, il faut citer au crédit le réalisateur, l'émission, la source de l'émission, faire ça dans les règles.
C'est vrai. fait. Et d'ailleurs, Monsieur Moriot, je le dis pour nos auditeurs parce que j'ai le texte là sous les yeux. Le texte comprend bien la mention. Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source.
Non, mais même, et encore au-delà de ça, moi c'était dans un contexte humoristique qui est tout à fait débattable sur le droit d'usage de la courte citation. Mais quand bien même, tout ça est plaidé, et donc en effet, si on regardait le dossier de près, enfin j'avais eu beaucoup de conseils, notamment mon avocat, que je salue, qui est remarquable en matière de propriété intellectuelle, et donc voilà, on était sûr, mais la question ne se posait même pas, j'étais sûr de gagner. La question c'était de savoir s'il gagnait beaucoup d'argent ou un euro symbolique, et moi je voulais, parce que c'est même pas de moi dont il s'agit seulement, c'est une petite affaire me concernant, c'est qu'il n'y a aucune, c'est ça qui est assez hallucinant, il n'y a aucune affaire antérieure à ce propos. Donc en gros, c'est quand même incroyable de se dire qu'à l'époque de 2026, où Internet, on emploie tout le temps des images, on crée des chaînes YouTube, et moi je vous encourage à essayer de prendre des images, même 12 secondes du JT de Laurent Delahousse qui interviewe un people pendant le Festival de Cannes, vous n'aurez même pas le temps de la poster sur YouTube, que vous serez striké, censuré et éventuellement banni par YouTube.
Éric, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que vous avez
J'ai été condamné, j'ai été débouté de mes demandes, Baila Carla, j'ai été non seulement débouté de mes demandes et j'ai été condamné à 15 000 euros de frais, donc ce qu'on appelle l'article 700, mais comme ils étaient trois en face de moi, il y avait trois avocats, et donc c'est à l'appréciation pourtant du juge, cela. Donc je suis non seulement débouté, mais en plus, ils m'obligent à payer 5 000 euros à chaque avocat, ce qui fait donc 15 000 euros. C'est une décision exécutoire, puisque évidemment, que mes opposants ne fanfaronnent et ne fassent pas trop les coques trop vite, évidemment, je vais faire appel dans les meilleurs délais, mon avocat va s'en occuper, donc cette affaire va être rejugée, mais ça va prendre un an et demi, mais en attendant, je dois verser 15 000 euros.
Qu'est-ce que vous attendez de cette affaire ?
Ce que j'attends de cette affaire, je vous dis, c'est au-delà de mon cas, moi j'en fais une affaire aussi de principe pour toute la profession.
Vous voulez faire une jurisprudence.
Et oui, parce que ça veut dire, le cœur de la décision, bon là je l'ai devant les yeux, ça fait près de 20 pages, mais le cœur c'était de dire que finalement les 12 secondes, c'est même pas qu'une question de durée, les 12 secondes, ils invoquent le droit de courte citation, mais au-delà de ça, ils ne reconnaissent pas l'originalité de cette séquence. Mais pourquoi ils ne la reconnaissent pas? C'est très simple. Si, évidemment, on ne voit que les 12 secondes de mon émission, je mets au défi n'importe quel concept si on en prend 10 secondes. Si on ne juge le concept qu'à l'aune des 10 secondes, évidemment qu'il est très difficile de faire montre de son originalité. Mais en revanche, évidemment, mon émission, elle s'inscrivait dans un contexte beaucoup plus général, qui était d'une heure et demie d'entretien. Il y avait une banquette orange tout à fait identifiable. Il y a des mouvements de caméra. Il y a un angle particulier. Et il y a mon logo, évidemment, en plus, accessoirement, en permanence à l'antenne, d'une marque qui a été déposée, puisque c'est les incorrectifs, mais non pas les incorruptibles, comme beaucoup le confondent, y compris Nagui, et qui marque les à l'IMPI. Et donc, vous voyez, donc tout ça s'inscrit dans un contexte parfaitement, justement, original, où le droit d'auteur aurait dû s'appliquer. Donc, je suis certain qu'il sera enfin reconnu en appel, mais en attendant, c'est profondément scandaleux, puisque ce livre, comme par hasard, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne vais pas le dire, puisqu'on va me traiter sinon de complotiste, encore que je suis déjà souvent traité de tous les noms, d'extrémiste de droite, enfin bref, aujourd'hui, tout le monde est traité de complotiste. Mais je trouve ça étonnant, je sors un livre qui s'appelle Les Intouchables de l'audiovisuel public, qui est en tête des ventes, comme vous l'avez gentiment rappelé, qui est même en rupture de stock. Et comme par hasard, le jugement, là, quelques jours après, en plein Festival de Cannes, où justement, je pensais que j'allais faire un strike, c'est le cas de le dire, parce que derrière, je vous dis encore une fois, si j'avais gagné, ça voulait dire que tous les petits producteurs qui se faisaient piquer leurs images par France Télévisions et autres pouvaient rentrer dans l'art de tout le monde avec mon jugement en termes de jurisprudence. Et donc là, aujourd'hui, n'ayant pas gagné, c'est encore, on est plus ou moins bâillonné, et le droit d'auteur, pour moi, est bafoué. Je dirais même qu'il est mort, si j'osais aujourd'hui le dire, puisqu'il n'a pas été reconnu, et que c'est profondément scandaleux, et que c'est bien la preuve, aujourd'hui, qu'il y a une impunité totale et que c'est bien la preuve qu'ils sont intouchables. Voilà, Léa Salamé est intouchable, qu'à l'époque est intouchable, France 2 est intouchable, France Télévisions est intouchable, et c'est absolument scandaleux.
Merci Eric. David, vous vouliez réagir.
Oui, Eric Moriot, je voulais aller dans votre sens, puisque en 2022, enfin c'était 2021, lors de l'élection présidentielle, un candidat, Éric Zemmour, avait fait un clip. Vous vous souvenez.
Et bien là, c'est même marrant, il y a un clip et il avait été condamné pour violation de droit d'auteur. Hugues voilà. Besson, voilà, c'était, il avait pris des images, je crois, ouais. C'était de Jeanne d'Arc. Et Pascal Regard, qui est l'un des dirigeants d'une des plus grosses sociétés de droits d'auteur, gestion de droits d'auteur, qui s'appelle la SACD, s'est défendu d'un tweet en disant que c'était parfaitement inadmissible et que c'était bien, que cette condamnation qui protégeait les droits d'auteur et que M. Zemmour devait aller se faire voir. Eh bien, moi, je suis exactement, pour le coup, pas dans le cas de M. Zemmour, mais dans le cas plutôt de, bah, qui était la société qui avait été, je crois que c'était Hugues Besson, je crois, à l'époque, c'était un fou de Jeanne d'Arc.
Dans votre sens.
Et là, je n'ai pas de communiqué de Pascal Regard, je n'ai aucun soutien d'aucune société de gestion de droits d'auteur. Il m'a même répondu sur les réseaux sociaux que mon affaire ne l'intéressait pas, donc c'est formidable. Vous avez Pascal Regard, qui est délégué général de la SACD, qui dit à un auteur qui a une affaire de violation de droits d'auteur que son affaire, que cette affaire ne l'intéresse pas. Il doit être trop occupé, je suppose, à aller parader au Festival de Cannes.
Vous n'aviez qu'à pas être d'extrême droite, Eric Brion.
C'est ça. Mais vous savez, même mon chien, il aboie, je le suspecte d'être d'extrême droite.
Jean-Jacques Cordival et Eric Morillo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Bah de gagner déjà en appel, ça je vous garantis que je ne lâcherai pas. J'en fais, je vous dis, une affaire de principe, parce que je veux aussi défendre tous mes petits copains hein, de la bande. C'est tous les gens qui ont des médias alternatifs. Même aujourd'hui, des radios comme vous, on devient des vrais médias sur les réseaux sociaux. Vous avez une chaîne YouTube qui fait des scores incroyables. Voilà, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui des millions à regarder ces médias dits alternatifs. Et j'estime que c'est scandaleux que nous, les médias dits alternatifs, on n'ait pas les mêmes droits que les médias dits mainstream. Et en plus, ce qui est incroyable, vous avez en plus gentiment rappelé que c'était France Télévisions. Donc, quelque part, j'ai payé, moi, les frais d'avocat. Non, mais attendez, c'est incroyable. France Télévisions.
Eh bien, dites-vous que vous rebouchez les 4 millions.
Des images.
On va devoir bientôt rendre l'antenne, Jean-Jacques Cordival.
Ah ben nous, c'est d'aller au bout de notre plainte, aller en instruction à l'heure actuelle par rapport à Cannes, pour montrer à tous ces gens comme la députée socialiste Adizadeh, Balanant, etc., qui ont dit « mais c'est pas de l'argent public, on vous dit que c'est pas de l'argent public ». Ils savent mieux que nous quand même. Nous, on est participés dans la plainte, ils savent mieux que nous que c'est pas de l'argent public. Ben moi, je vais vous le dire, c'est bien de l'argent public, on va le démontrer. Et quand tout ce petit monde verra ça, tout le monde sera sur le derrière. Je ne vais pas dire autre chose.
Merci beaucoup à vous. Merci aux chroniqueurs, merci aux auditeurs. Merci. Et on se retrouve samedi prochain de 15h30 à 17h.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.